Je crois qu'aujourd'hui, ce qui manque le plus, c'est le lien profond avec le blé. C'est ça que les agriculteurs, ils ont perdu, quoi. Ce lien profond avec cette plante qui chemine avec l'homme, qui depuis 10 000 ans a cheminé. Regardez tous les rites qu'il y a eu autour des moissons, autour des semailles, à travers la Grèce, à travers la Rome. C'était vraiment incroyable, les rites qu'il y avait pour accompagner le blé et qui, justement, avait pour but, je pense, de rapprocher le blé de l'homme, et il le rapprochait à travers le pain. Et il faisait cette humanité. Il faisait ses copains qui partagent le pain. Et je pense que c'est le blé aujourd'hui, comme il a attiré à une époque l'homme, eh bien, il est en train de lui envoyer un signal, quoi. Le fait qu'il ne se digère plus, qu'il y a tant de problèmes autour du gluten du blé, je suis persuadé que cette réflexion-là, aujourd'hui, elle est arrivée. Il y a suffisamment d'agriculteurs qui commencent une autre démarche, quoi. Je pense que l'histoire du pain n'est pas finie, mais sûrement que l'histoire des blés extrêmement modernes à haute production, je pense qu'elle est arrivée à son cycle, à son terme, et qu'il va renaître avec sa diversité qui est gigantesque.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Jean-François Berthelot est boulanger et agriculteur en Lot-et-Garonne, où il cultive des variétés de blé anciennes qu'il est allé chercher dans les réserves de l'INRA. Membre du réseau Semences Paysannes, il mène, comme d'autres, une lutte contre les industries de l'agroalimentaire qui ont imposé la culture d'un blé standardisé, répondant à leurs critères de rentabilité, mais qui, bourré de gluten, aboutit à un pain de mauvaise qualité et de goût uniforme. Sur ses 40 hectares près de Marmande, Jean-François Berthelot, lui, fait pousser des épis officiellement hors la loi, puisque non référencés, mais qui donnent une farine permettant la fabrication de pain à l'ancienne, goûteux et digeste. De la même façon, partout en France, ces dernières années, un mouvement de réflexion sur les excès de l'agriculture industrielle s'est répandu, avec en parallèle la volonté de réhabiliter la saveur des produits et de privilégier les circuits courts pour l'alimentation. Lequel d'entre nous ne s'est pas dit, un jour ou l'autre, en regagnant son bureau ou son entreprise, qu'il passait à côté de sa vie ? Enfant, on se rêve volontiers ébéniste, pâtissier, cuisinier ou jardinier, parce que l'on a vu travailler de ses mains un homme ou une femme passionné par son métier. Et puis, le diktat des études et l'injonction de la réussite financière finissent par nous convaincre que l'on vaut mieux que ça, comme disaient souvent les parents. Étrange formule, car quoi de plus beau, de plus noble, de plus essentiel que de prendre soin du bien-être des hommes ? Un jour, Christophe Vasseur s'est réveillé. Il était directeur commercial en Asie. Il est devenu boulanger, ce qu'il avait toujours rêvé de faire. Après une formation de quelques mois, il a ouvert sa boulangerie à Paris et c'est là qu'il a appris vraiment à faire le pain qu'il avait imaginé. Aujourd'hui, ce fameux pain des amis est sur les meilleures tables de la capitale et on fait la queue devant sa jolie boutique près de la République. Il nous raconte cette aventure et son combat pour la réimplantation des variétés de blé d'autrefois dans un magnifique livre « Le pain de la terre à la table » qu'il a édité à compte d'auteur. Christophe Vasseur est aujourd'hui l'invité de l'Humeur Vagabonde.
On a loué une maison pas très loin d'Avignon, un vieux Polonais qui cherchait une mine d'or. Il faisait bonder l'aurore à regarder le ciel dans un fauteuil en toile. Et les poules imbéciles et le coq d'opéra. Quand le café était prêt, une fenêtre s'ouvrait. La mère bonne humeur commentait un de ses rêves. J'ai les pieds gelés mais je me souviens du mois d'août 75. Et tu tissais un gilet comme un sage d'artisan, au maillot de bain du soir au matin. Tes frangins faisaient des sprints à vélo sur une route déserte. On allait chercher du fromage, du chèvre frais dans la ferme du haut. Sur les chaises du jardin, le père Barbuchot pensait à Picasso. Oh, la piscine était loin, mais ça faisait du bien. Quand on arrivait, quand on arrivait. On buvait du pastis comme si c'était de l'eau. le reste tu voulais que je t'enlève comme un premier amour. On jouait à la pétanque comme des amateurs. Et y'a guère qu'un armateur pour 100 000 navigateurs, un seul compteur pour 100 000 baratineurs, des crampes dans le cou, les yeux qui me piquent, mais je me souviens. Mistral soufflait sur la plaine, on faisait l'amour sur le toit en regardant les étoiles. Y'avait rien à gagner, les journées passaient, tout était simple. On croyait plus en rien d'autre qu'à l'instant. Et ça jouait de la musique sur tous les sentiments. Pas d'intrigue de village, pas d'ambition, juste une manière de vivre. Une manière d'être, je me souviens. Mais il ne reste jamais rien de ce qui est vécu. Quelques grains oxydés sur de la paraffine et des souvenirs idiots qui donne un peu de lumière. Les jours de pluie,
c'est pas une nourriture anodine, le pain. Le pain contient les quatre éléments et donc il peut symboliser toute la nourriture après, puisqu'il y a le feu, hein. Le feu, très important dans le pain, puisqu'il va être divisé en deux. La croûte, qui n'a pas le même goût que la mie. On parlait de l'importance de la chaleur, elle est évidente dans le pain. Il y a l'eau, il y a le blé de la terre, il y a le sel aussi, de la terre ou de la mer, et il y a l'air, des bulles du pain, du levain, qui va gonfler la pâte et créer ces bulles où... Tout le monde a dû le faire, ça, comme moi. On passait la langue dans le creux des creux des bulles du pain, des yeux du pain, comme on disait, et on trouvait que c'était lisse. C'est vrai, il y avait un petit côté lisse. On aimait les trous.
Bonjour Christophe Vasseur.
Bonjour.
On a bien commencé avec votre ami Charles-Élie Couture, qui chante cette manière de vivre, cette manière d'être, souvent associée à l'autrefois, et puis l'écrivain Marie Rouanet, qui est du Midi, et qui raconte ce que l'importance du pain est, des odeurs d'enfance et des souvenirs. Il y a toute votre démarche dans, à la fois dans cette musique et dans cette parole que l'on vient d'entendre. C'est redonner ce qu'on a perdu souvent, c'est-à-dire ce goût, ce parfum d'autrefois.
Et la simplicité. C'est exactement le propos et c'est aussi pourquoi je signe l'introduction avec cette référence à cette chanson de Charles-Élie Couture. C'est un retour à quelque chose d'éminemment simple et qu'on a oublié, faute de modernité excessive. Enfin, on est tous la tête dans le guidon, on est passé à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est la simplicité.
Il vous a fallu longtemps, je le disais, vous avez d'abord eu une première vie, une vie comme la majorité des gens. On fait ses études, on a un boulot, on croit que c'est bien, on part, on bosse comme un malade. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le jour où votre vie a changé de cours, Christophe Vasseur?
C'est exactement ce que vous dites. On suit un mouvement, le mouvement qui est, initié par la société, par votre entourage, vos parents, vos amis et le modèle ambiant. Et un jour, vous avez le sentiment qu'effectivement, on vous a promis sur le papier, il faut faire ça, vous allez être heureux, ascension sociale, etc. Mais au fond, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas heureux. Et là, il y a une petite voix en vous qui commence à poindre et à crier de plus en plus fort, mais il faut changer. Il faut changer, mais changer, faire quoi? Alors affronter le regard des autres, parce que tout d'un coup, votre choix, c'est de dire, non, j'arrête tout, parce que ce qu'on m'a promis comme étant le bonheur, ça ne l'est pas. Il faut que je retourne à ce que je disais tout à l'heure, l'essentiel, c'est-à-dire à ce que, enfant, je sentais comme étant bon pour moi. Faut faire confiance à son instinct. Gosse, on a tous à un moment une vision assez précise de ce par quoi on est attiré. Mais on n'ose pas ou on franchit pas, justement, on se jette pas à l'eau parce que souvent il y a beaucoup de métiers autour de ça qui sont pas valorisés socialement. Et la boulangerie en fait exactement partie. Moi, je suis né dans un milieu bourgeois.
En Haute-Savoie.
En Haute-Savoie, j'ai eu la chance de grandir donc dans un milieu très aisé. Et heureusement, parce que ça m'a permis de faire des études assez longues, poussées, et justement d'avoir une culture générale assez riche, une autre vie avant. Mais un jour, on veut donner du sens à sa vie. Et je vais dans l'inconnu. Mais on meurt pas de ça. Je trouve que le drame aujourd'hui, c'est qu'on pousse pas assez à ce genre de transversalité, c'est-à-dire tout d'un coup s'arrêter professionnellement et partir complètement sur une autre direction qui est pas du tout dans ce que vous aviez étudié. C'est pas grave, vous avez un bac plus 5, mais vous avez le droit d'essayer de passer un CAP en candidat libre et puis de faire raboneur, boulanger. Et alors, c'est le but n'est pas de gagner de l'argent ou d'accumuler des richesses, le but c'est d'être heureux et de sentir qu'on est à sa place. Et pour moi, sentir que j'étais à ma place, c'était, je dirais, donner du bonheur aux autres avec quelque chose d'aussi simple mais en même temps éminemment technique à fabriquer, le pain.
Mais c'est drôle parce que quand je feuilletais ce très beau livre que vous avez édité vous-même et qui vous ressemble, Christophe Vasseur, maintenant que je vous ai en face de moi, je pensais qu'il y avait un autre nom de métier qui vous convenait bien, c'était pétrisseur de bonheur. Parce qu'il y a ces photos de la pâte dans votre livre, qui, c'est d'une beauté, on dirait des sculptures modernes.
Oui.
Et en même temps, c'est vrai que ça a quelque chose qui nous raconte une part d'enfance oubliée. On a tous l'odeur du pain chaud dans les narines, des boulangeries devant lesquelles on passait quand on était enfant. Mais alors vous, vous dites que vous êtes né dans un milieu favorisé. Alors pourquoi ce vieux rêve de boulange? D'où il vient?
Je ne saurais pas vous dire trop précisément. Ce qui est certain, c'est que depuis tout petit, j'ai associé l'univers de la bouche, la table, le repas, le préparer le repas, le partager, à l'amour. J'ai baigné dans que ce soit du côté de mon père ou de ma mère, dans des familles où la cuisine était sacrée. La cuisine était un moment de convivialité très important, le repas du dimanche, et où les femmes qui, enfants, me gardaient, étaient des femmes qui pourraient m'exprimer, je pense, leur amour, cuisinaient. Alors, elles me couvraient de gâteaux, mes parents terminèrent leurs études de médecine à Strasbourg, et je garde, j'ai 46 ans plus tard, des souvenirs émus du kouglof, des dents de loup, et je pense que j'ai dû associer très tôt cette idée de cuisiner égale aimer les gens, ou en tout cas montrer aux gens que vous les aimez.
Alors dans votre livre, Christophe Vasseur, vous dites tout le temps, vous employez tout le temps le mot émotion.
Ouais.
Vous venez de nous parler de ce plaisir, de la gourmandise, de cet amour qui est donné par la cuisine. Je crois que l'une de vos premières émotions, je le crois puisque vous le racontez dans votre livre, je ne l'ai pas inventé, eh bien c'est lié à cette voix-là.
J'utilise la truffe pourquoi? Parce que ma grand-mère, depuis que je suis tout petit, m'a amené derrière cette maison où nous sommes, là, 3-4 berges dessus, les berges sont des restants. Elle avait un petit tablier noir à pois blanc, et avec un opinel et un petit mouchoir, et on allait chercher des truffes. Et alors je vais vous raconter une histoire, encore une belle histoire d'enfant, mais une belle histoire sympathique. On avait quelques poules derrière la maison, elle allait chercher les œufs, elle faisait une brouillade. Et ce qui restait de la brouillade, elle le mettait dans un saladier en pyrex. On n'avait pas de frigidaire à l'époque. Hein. Vous imaginez bien que, pauvre comme on était, les frigidaires, on ne savait même pas que ça existait. On se lavait à la pile, on n'avait même pas de salle de bain. Et elle mettait le reste de brouillade dans ce saladier en pyrex. Et quand je revenais de l'école le soir, au lieu de manger du pain et du chocolat, comme tous mes copains, ben moi je mangeais du pain qu'elle faisait réchauffer dans le four de la cuisinière à bois avec de la brouillade aux truffes. Alors moi je croyais que j'étais puni, parce que je voyais les autres avec leurs barres de chocolat Aiguebelle, je me rappelle, c'était Aiguebelle. Et j'étais vert de rage, parce que moi, je bouffais ma brouillade aux truffes qui restait de midi, et ça m'enchantait pas vraiment, quoi. Et finalement, je me suis aperçu, avec le recul du temps, que moi, j'étais privilégié, je mangeais des truffes à 4 heures, à midi, le soir, comme eux, ils mangeaient du chocolat, quoi.
Maintenant, les gens traversent la France pour venir manger des truffes chez vous.
C'est vrai. Ils traversent la France, et même, il y en a qui viennent du bout du monde.
Eh bien, je vous remercie, Christophe Vasseur, de nous avoir permis d'entendre la voix de Clément Bruneau, parce qu'il se confiait au micro de notre cher Chris. C'était en 2001, et ça fait toujours plaisir d'entendre les voix des gens qu'on aime, même quand elles ne sont plus là. Chez Bruneau, ben oui, vous y êtes allé quand vous étiez enfant, Christophe Vasseur. C'est un cuisinier du sud de la France, et vous y avez dégusté un repas de truffes.
Eh bien, figurez-vous, j'y ai pas mangé une truffe, puisqu'à l'époque, quand je l'ai découvert, il n'était pas tombé dans la truffe. Parce qu'aujourd'hui, c'est, je crois, le premier transformateur, restaurateur de truffes en France. Il doit en transformer plusieurs tonnes. Mais à l'époque, il venait d'ouvrir son restaurant. Il était, écoutez bien, sur liste rouge. Il n'y avait pas de pancarte pour indiquer le restaurant. Il y avait 12 couverts. C'était lui qui faisait et le service et la cuisine. Il y avait un type qui lui donnait un coup de main à la plonge. Et c'était un spectacle. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de carte. On arrivait, les gens du coin se donnaient l'adresse sous le manteau parce qu'on y cuisinait, on y mangeait divinement bien. C'était pantagruélique. Je me souviens, 38 ans plus tard, 35 ans plus tard, enfin peu importe, j'avais 5 ans, j'en ai 49, faites le calcul, je suis ému. Mais je me souviens exactement de tous les plats que j'ai mangés et il n'y a aucun restaurant qui m'a laissé ce souvenir-là. Clément Bruno, si à l'époque j'avais habité à côté, j'avais 16 ans à l'époque, j'aurais dit à mes parents, j'arrête l'école, c'est bon, j'ai trouvé quelqu'un là. Qui va m'apprendre quelque chose où je sens que je vais être bien.
Mais c'est... vous dites souvent que vous auriez pu être cuisinier quand vous êtes devenu boulanger.
Le pain, les cuisiniers, nous sommes des rôtisseurs. On travaille la flamme, le feu, bien distingué du pâtissier qui est, lui, dans quelque chose de beaucoup plus précis et je dirais, qui fait moins appel à de l'imprévu et à la gestion de l'invisible. Mais pour en revenir à Clément Bruno, c'est un personnage pagnolesque et je n'ai jamais retrouvé quelqu'un qui savait recevoir comme à la maison. Comme lui. C'est-à-dire que vous êtes hors du temps, vous n'êtes plus au restaurant, vous êtes chez quelqu'un qui vous fait un spectacle et qui vous donne à manger, qui vous donne de l'amour en plat. Chez moi, c'est de l'amour en mie, chez lui, c'est de l'amour en plat. Avec sa faconde, en plus, c'est quelqu'un du Sud, mais cette générosité, c'est dans l'assiette. Le plat d'écrevisses qu'il nous a amené, il n'y avait pas de 4 écrevisses qui traînaient dans une assiette. C'était un plat immense, avec des écrevisses flambées au cognac, déglacées au champagne. Mais rien qu'après ce plat-là, on n'avait plus faim. Et non, c'était pas possible. Après, il fallait une petite viande. Hein. Et c'était pas un demi-magret chacun, c'était un magret entier. Il faut savoir qu'à l'époque, il démarrait. Donc, il faisait une cuisine. Aujourd'hui, c'est assez courant de trouver des gens qui font de la cuisine de saison. Mais à l'époque, c'était complètement inédit. Lui, en fait, comme il n'avait pas de sous, il allait voir la voisine qui avait un potager. Il lui disait, t'as quoi en ce moment? Bah, allez, je prends ça. Il y avait le chasseur qui avait dit, t'as ramené quoi? Et puis, hop. Et avec ça, il vous faisait un spectacle. Il vous faisait quelque chose de grandiose parce que c'est quelqu'un d'éminemment talentueux. Et ça, je vous dis, moment unique. À ce moment-là, j'ai pas sauté le pas parce que tout d'un coup, oula. Si je fais ça maintenant, non, quand même, là, je vais bientôt avoir le baccalauréat. Puis après, je vais peut-être faire une prépa et des études. Là, il y a quelque chose qui est pour moi, là. Mais j'ose pas le faire.
Mais on sent bien que c'est aussi cette notion de partage. D'ailleurs, c'est pas innocent si votre pain signature, Christophe Vasseur, s'appelle le pain des amis.
Exactement.
Faire du pain, mais le partager. Il y a quelque chose dans votre nouvel engagement qui tient au retour d'un collectif. C'est-à-dire que dans ce genre de boulot que vous avez fait et que souvent on fait, c'est souvent un sillon solitaire qu'on trace. Et là, tout d'un coup, c'est aussi un retour à plusieurs.
Oui. Le plus bel hommage qu'on m'ait fait à ce jour, c'est un boulanger japonais qui a dit de moi, il fait la trace. Je suis un montagnard. Pour moi, faire la trace, c'est le truc le plus difficile, le plus dangereux aussi. C'est un sacré hommage, je dirais, parce que je me dis, oui, le type, il a tout compris. Quand j'ai démarré il y a 14 ans, si vous voulez, tout le monde s'est foutu de ma gueule. Il faut pas oublier qu'à Paris, il y a quelque chose comme 1300 boulangers, artisans boulangers installés. Donc moi, j'arrive, j'ai mes 2 mois de formation à peine, mon CAP en candidat libre, ancien cadre commercial de la mode. Autant vous dire que tout le monde rigole. En plus, je rachète une boulangerie qui en est à son 3e dépôt de bilan en 7 ans, donc personne ne veut. Tout le monde rigole. Là, on remet une couche. 14 ans plus tard, je suis un peu devenu un incontournable. Les gens ne rient plus et effectivement saluent ce parcours assez singulier qui a consisté à, dès le début, dire « je vais pas faire comme tout le monde, je vais d'abord faire la boulangerie dont je rêve, parce que c'est un rêve de gosse, il n'est pas question que vous me le polluez avec « il faut faire de la pâtisserie, puis il faut faire des centres ». Non, je fais que du pain et de la viennoiserie et je vais vous faire un pain. J'ai pris je l'ai enlevé maintenant, mais à l'époque j'avais mis une citation du livre de Marcel Pagnol, « La femme du boulanger », et j'avais mis à l'entrée de ma boutique « je vais vous faire un pain ». Comme vous n'en aurez jamais vu. Et dans ce pain, il y aura une part d'amour et d'amitié. Bagnol dit, je crois, il y a un grand merci, mais voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que Je suis peut-être pas super bon là quand je démarre, mais en tout cas, je vais y mettre mes tripes, je vais y mettre mon cœur et je vais vous faire quelque chose de singulier.
Ça a mis du temps, parce que j'imagine que les premières années, maintenant, on vient chercher votre pain de plein d'endroits au monde.
Du bout du monde, comme
oui,
les truffes de Bruno.
Voilà, les Japonais se pressent pour suivre cette trace. Beaucoup de gens viennent voir comment vous faites, parce que votre pain est absolument délicieux. Mais j'imagine qu'au début, ça a dû être assez dur.
Ce qui était le plus dur pour moi, c'était les trois années de transition entre le moment où j'ai donné ma démission de cadre commercial, c'est-à-dire où j'ai déposé le costume cravate et les chaussures bien cirées, et le moment où j'ai ouvert la boulangerie. Il s'est passé 3 ans et demi de galère, de j'essaye, finalement non, je fais pas, etc. Donc ça a été dur. Pourquoi ? Parce que tant que j'étais pas dedans, dans mon jouet, dans ma boutique, à faire bonjour monsieur, dame, et voici ce que j'ai fait aujourd'hui, j'avais pas encore la certitude que j'allais être à ma place. À partir du moment où j'ai ouvert, il m'a fallu quoi ? 2 jours pour avoir la confirmation que c'était exactement ce qu'il fallait que je fasse, que c'était là ma vie. Et vous voyez, 14 ans plus tard, je ne me vois pas faire autre chose. Parce que c'est juste un métier fabuleux. Mais la démarche de se jeter à l'eau, avant d'ouvrir réellement votre rêve, de le concrétiser, c'est peut-être celle-là la période la plus dure. Parce qu'après, le client, dès lors que vous vous singularisez avec quelque chose, effectivement, qu'on ne trouve pas ailleurs, les gens viennent très vite. Alors au début, c'était une clientèle purement locale, le pâté de maison, et puis l'arrondissement, et puis un peu des arrondissements limitrophes, Paris. Et après, ce qui est fabuleux, j'ai qu'une boutique, mais j'ai effectivement des gens du monde entier qui viennent acheter du pain et des croissants chez moi.
Vagabonde sur France Inter.
Voilà, on va partir. On ouvre le cendrier.
c'est parti.
Par un compagnon tailleur de pierre ariégeois, Georges, on a fait tailler ce tétramorphe, ça s'appelle un tétramorphe, hein, qui reprend aussi les figures de l'art roman, c'est-à-dire qu'au milieu, on a les mains qui divisent le pain, et puis, bon, on devine à qui peuvent appartenir ces mains, hein, c'est le Fractio Panis, et on a de chaque côté les quatre évangélistes, Saint Marc, Saint Matthieu, Saint Jean et Saint Luc, qui sont représentés sous une forme romane, c'est-à-dire avec le bestiaire.
Christophe Vasseur, vous avez reconnu la voix, je le vois.
Roland Feuillard.
Voilà, votre large sourire. Il était interrogé en 2015 par notre ami Marie-Pierre Planchon. Il allumait son four à Perpertuse, près de Cucugnan. Et lui aussi, il a fait comme vous. C'est un ex-ingénieur d'un grand groupe industriel. Mmh. Et voilà, maintenant, il fait du pain, il plante du blé, et pas n'importe quel blé. J'ai l'impression que c'est... petite hirondelle, quelqu'un un jour dans un coin qui dit « il y en a marre de mal manger, de manger du mauvais pain, de pourrir notre terre », j'ai l'impression que ça se répand. Est-ce que vous, Roland Feuillas, est-ce qu'il y a comme ça d'autres personnes à travers la France qui tout d'un coup se remettent à nous proposer des choses qui nous font du bien ?
C'est difficile à dire aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est qu'on voit émerger tout du moins sur Paris, des initiatives de la part de confrères boulangers qui se remettent à travailler sur des variétés plus ou moins anciennes, mais en tout cas, principalement avec des fermentations lentes, parce que là-dessus, je voudrais juste apporter une précision très importante par rapport à l'interview de Jean-François Berthelot au début. Oui, il y a un problème de gluten aujourd'hui, mais c'est pas le gluten qui est fautif, c'est le blé qui est derrière. En 50 ans, on a dû multiplier peut-être encore par 3 les rendements des blés. Alors très bien, on a des blés, je sais pas si vous avez remarqué, quand vous partez en vacances dans les champs, les blés sont tout petits, ils font 20, 30 centimètres. On a explosé le rendement. Par contre, on a une molécule de gluten qui est devenue difforme, enfin, qui a grossi. Et le drame, comme on ne laisse plus fermenter la pâte à pain assez longtemps, parce que c'est la fermentation qui dégrade la molécule de gluten et rend le pain digeste, vous mangez un pain qui est indigeste. Donc, c'est pas juste un phénomène de mode que d'entendre « ah bah oui » ou de déclarer bah, « j'ai une intolérance », enfin, je sais pas quel est le
oui,
terme technique.
Oui, on dit maintenant une intolérance au gluten, ce qu'on ne disait pas autrefois.
Voilà. Alors, il s'agit pas, attention, on parle pas des gens qui ont la maladie cœliaque, qui eux ont un vrai problème beaucoup plus grave que ça, mais je vous parle de toutes les personnes qui ont juste un problème de digestion. Dès lors que ces personnes remangent un pain qui a fermenté au moins 24 heures, il n'y a plus aucun problème de digestion. C'est ça qu'il faut associer. Travailler avec des variétés de blé qui n'ont pas été trop hybridées et faire fermenter, laisser les pâtes fermenter 24-48 heures parce que, en fait, il y a 3 bénéfices derrière ça. Effectivement, vous décomposez complètement la molécule de gluten, le pain est totalement digeste. Surtout, vous développez les arômes. Et enfin, diététiquement parlant, vous transformez des sucres rapides en sucres lents.
Non, mais surtout des gens comme vous et comme Roland Feuillas, vous vous battez pour qu'on remette en culture des variétés de blé qui existent encore dans les fichiers de l'INRA, mais qui ne sont plus utilisées.
Et il y a une difficulté juridique derrière ça. C'est qu'avec cette foutue loi qui a été votée, qui est passée comme une lettre à la poste il y a maintenant 4 ou 5 ans, je ne sais plus, sur les semences, on n'a plus le droit de planter aujourd'hui des semences qui ne sont pas répertoriées au catalogue officiel. Concrètement, ça veut dire quoi ? Toutes les variétés anciennes, peu productives, ont été éliminées. Parce que pas assez productives. Alors qu'elles étaient parfaitement adaptées à la panification. Mais on les a retirées. Aujourd'hui, les agriculteurs qui cultivent ça sont hors la loi. Donc demain, il peut y avoir une descente des fraudes chez Jean-François Berthelot qui va dire « Monsieur, ce que vous faites, c'est interdit, vous arrêtez tout. » Et Monsieur Berthelot ne pourra que essayer de saisir effectivement les citoyens pour dire « Non, ne laissez pas faire ça, on est en train de confisquer le vivant, de tuer la biodiversité au bénéfice de quelques... »
Mais ça se passe partout dans le monde en ce moment, Christophe
Vasseur. Voilà, le drame, ça se
passe
partout.
On le voit avec le maïs en Amérique latine,
exactement.
Par exemple, quand Monsanto interdit qu'on cultive les variétés anciennes. C'est partout
qui
le même problème.
Qui étaient cultivées par des peuples qui ne demandaient rien et à qui maintenant on dit « Vous passez à la caisse avant de cultiver. » C'est tout simplement honteux. Mais je pense qu'il y a... Vous disiez tout à l'heure, est-ce que vous pensez qu'il y a il y a effectivement un renouveau justement de la boulangerie vers des variétés un peu anciennes et en tout cas vers des pratiques un peu plus vertueuses. Je le souhaite. En tout cas, on est quelques résistants à le faire. Roland Feuillas en fait partie, j'en fais partie. On ne s'est pas concerté, je dirais, c'est au hasard des rencontres qu'un jour j'ai discuté avec lui, je dis, tiens, mais en fait, on a la même démarche. Je pense que derrière ça, il y a plus un mouvement général de prise de conscience de tout le monde, en tout cas d'une majorité de la population, autour de qu'est-ce qu'on met dans son assiette, et en ayant aussi conscience du fait qu'on a un vrai pouvoir individuellement, en changeant nos habitudes, en modifiant nos habitudes. Il ne faut pas attendre des pouvoirs publics qu'ils votent une loi ou qu'il y ait quoi que ce soit là-dessus. On sera tous morts quand on se rendra compte que ce qu'on a mis dans les blés là, c'est pour beaucoup des pesticides, des cancérigènes, des perturbateurs endocriniens. Non. Donc, aujourd'hui, le citoyen, juste en modifiant ses habitudes d'achat, en allant un peu plus chez un artisan qu'il a effectivement pris le temps de rechercher, c'est un peu plus long, mais une fois que vous l'avez trouvé, que ce soit la personne chez qui vous achetez vos légumes, votre pain, votre fromage, votre viande, voilà, ça demande à repenser tout ça. Aujourd'hui, se nourrir devient un acte militant. Et je pense que s'il y a effectivement des initiatives de plus en plus de boulangers qui reviennent vers des méthodes de panification plus saines, et plus respectueuse du vivant et de la tradition, c'est d'une manière générale une population qui prend un peu conscience du fait qu'on est allé trop loin, beaucoup trop loin.
Mais vous, Christophe Vasseur, justement parce que votre boulangerie a marché, que de plus en plus de clients et de restaurateurs sont venus acheter votre pain, vous avez pu, j'allais dire, vous habiller sur mesure. C'est-à-dire que maintenant, votre farine, elle est fabriquée pour vous. Oui. Grâce, vous avez trouvé encore un moulin qui travaille à l'ancienne et qui a accepté de vous fabriquer. Racontez-nous un peu l'histoire de cette farine, parce que je crois qu'elle est composée de pas mal de blés différents.
12 blés différents, ouais. Enfin, peut-être 11 ou 14. Mais d'abord, un état des lieux un peu de la meunerie en France. Il faut savoir que les trois plus gros moulins doivent truster à peu près, je ne sais plus exactement, 85% du marché. Donc on parle d'hyperconcentration. Autour de ça, vous avez encore quelques petits moulins indépendants qui travaillent pour certains avec une pratique telle que les anciens l'avaient. C'est-à-dire qu'on traite le moins possible les blés, on essaye de privilégier l'humain et pas le profit, on essaye de travailler sur des variétés anciennes, on privilégie le goût et la santé. Le goût et la santé, et pas juste l'argent. Et j'ai eu la chance, en travaillant en fait, en contactant différents moulins autour de Paris, d'en trouver un qui est encore indépendant, encore une petite structure familiale, les moulins bourgeois, à qui j'ai demandé une farine, une mouture spéciale, et qui m'ont dit tout de suite, mais banco, on vous suis, ça nous intéresse, et puis votre démarche, elle nous plaît, même si aujourd'hui, le bio et ce que vous faites, c'est pouillem dans notre chiffre d'affaires, mais on y croit, nous on essaye d'aller vers ça, et de convaincre nos clients d'aller vers ça aussi, donc vous allez devenir notre ambassadeur, on est ravis de travailler avec vous, et on a mis au point donc un mélange, parce que je voulais à la fois une certaine plasticité et un goût. Moi, ce que j'avais en tête, c'est un goût. J'ai grandi à Annecy. Il y avait un couple de boulangers qui travaillaient à l'ancienne au feu de bois. Ils étaient deux, lui au pétrin et au four, elle à la vente. Ils faisaient un pain, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente. Il y avait tout le temps la queue devant chez eux. Il n'y en avait plus à 6 heures. Bah, c'était comme ça. Il fallait revenir le lendemain matin et refaire la queue. Mais j'avais ce goût en tête. Je voulais retrouver ça. Donc, voilà, vous dire quel goût il a, je sais pas, il faudrait demander à des clients qui vont vous dire, oui, mais il y a une petite note de sirop d'érable, ou ça sent un peu le châtaignier, un peu le foin, ou je sais pas quoi. Tout ça, c'est la magie du blé, de la fermentation et de la cuisson. Mais je me suis un peu perdu là dans mes propos.
Oui, mais vous nous racontiez comment cette farine était arrivée, parce que c'est quand même une aventure. Et puis, du bio parfait aussi, c'est-à-dire qu'il fallait des blés cultivés sur des terres sans pesticides.
Ouais, le choix du bio, en fait, il s'est imposé assez brutalement dès lors que j'ai tout simplement fait analyser ma farine. Voilà, c'est aussi bête que ça. Il y a un moment, vous voulez savoir, parce que autour de vous, que ce soit les moulins ou même les représentants, tout le monde vous dit, oh vous savez, les blés, oh, c'est peu traité, et puis non, mais on met un tout petit peu, mais franchement, c'est rien. Oui, mais tout ça, c'est du vent. Donc, à un moment, vous voulez avoir une vérité qui est imparable, c'est celle d'une analyse. Voilà, vous envoyez ça dans un laboratoire, et puis on vous dit, bah, il y a tant de résidus de ça, et puis ce produit-là, c'est une molécule cancérigène, et puis ça, c'est un perturbateur endocrinien, etc. Donc, par rapport à ça, est-ce que c'est parce que je suis fils de médecin, que j'ai particulièrement le souci de la santé de mes clients, que je me suis dit, mais là, j'arrête tout de suite. Hein. C'est ce que je croyais être une farine à peu près propre, ne l'est pas du tout, en tout cas par rapport à mon niveau d'exigence. Attention, personne ne vous empêche de travailler avec ces farines-là. Faut être bien clair là-dessus. Il ne s'agit pas de, on empoisonne tout le monde aujourd'hui avec. Mais quel est votre niveau d'exigence? Moi, le mien, il est d'avoir un produit qui non seulement est nourrissant, non seulement est bon, mais qui doit être sanitairement irréprochable. Donc là-dessus, je me suis mis la barre effectivement très haut en disant, je bascule tout en bio. Je ne le revendique pas dans ma boutique. Vous ne verrez pas une grande étiquette avec AB, etc. Néanmoins, pour moi, c'est juste le minimum syndical. Je suis transformateur. Je ne peux pas faire autrement que vous vendre un produit qui n'est en aucun cas, même à toute petite dose, un poison ou quelque chose qui va vous rendre la digestion un peu difficile ou quoi que ce soit. Non, ça doit être du bonheur et quelque chose justement qui est bon pour votre santé.
Les masses mouvantes des dissipées, les masses mouvantes des tourneaux dans le matin pâle. Aujourd'hui avale, quelqu'un du pays avale, venu jusqu'au puits avale, dans le matin pâle. Avale au nom de la nation, la nation, la nation, la nation.
On est en train d'enfourner, donc on entend la porte qui s'ouvre et qui se ferme. Voilà le pain. Le pain qu'on pose sur la pelle. Le pain sur la pelle. Là, on y met un petit voile de farine dessus. Clac, qui va avoir une grande utilité. Et puis, là, on fait ce qu'on appelle la grigne, qui va servir en fait de cheminée un petit peu, qui va maintenir juste la bonne pression dedans et aussi laisser la vapeur s'échapper. Quelles sont-elles les vraies richesses et desquelles avons-nous besoin pour être heureux et pour construire le bonheur au travers nous? Pour nous, c'est extrêmement important ici. C'est de faire un pain qui ait d'excellente valeur nutritionnelle. Enfin, on s'y attache en tout cas.
Christophe Vasseur, encore un petit tour devant le four de Roland Feuillas. Mais avant d'enfourner le pain, il faut préparer la pâte. Et donc, vous insistez beaucoup là-dessus. Vous dites qu'en fait, le pain est digeste quand on prend le temps de laisser fermenter. Ce qui veut dire que vous préparez votre pâte et ensuite, elle reste à gonfler, à fermenter pendant 48 heures.
48 heures, 24 à 48 heures. Vous savez, dans mon livre, je rends hommage à un vigneron parce que pour moi, c'est vraiment un métier frère de celui du boulanger. La fermentation est la clé, et l'une des clés en tout cas, dans les deux cas. Le vigneron, pour que son vin devienne sublime, il faut qu'il travaille effectivement des raisins qui sont propres à donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais après, une fois qu'il a mis ça en bouteille, ben, il faut qu'il oublie ça en cave. Il faut que les vins maturent, vieillissent. Et tout ça, c'est du temps. Et alors, pour le vigneron, il va vous dire, oui, mais c'est de l'argent qui est immobilisé. Mais de la même façon, pour le boulanger, entre laisser fermenter vos pâtes 3-4 heures et les laisser fermenter 48 heures, il y a un monde. Mais justement, c'est le jour et la nuit. C'est au final, vous avez bonifié votre pâte et ensuite, vous allez apporter la dernière touche ultime, finale, sur la cuisson. Il y a ces deux clés, la fermentation et la cuisson. Mais la fermentation est fondamentale.
Et en même temps, c'est pas non plus une science exacte, Christophe Watzer. Je me suis arrêtée dans votre livre sur une phrase où vous dites que, en fait, travailler la pâte, c'est comme dompter un animal sauvage.
Exactement. Quand vous travaillez avec des farines, justement, qui ne sont pas assistées de béquilles chimiques, c'est-à-dire que c'est un produit 100% naturel, vivant, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été écrasée il y a 6 mois et on a mis des antioxygènes pour la conserver longtemps. C'est un produit extrêmement volatile, réactif. En fonction de la météo, il va s'exprimer différemment, s'il fait sec, s'il pleut, s'il fait chaud, s'il fait froid. D'une journée à l'autre, même à température équivalente, elle va s'exprimer encore différemment. Et ça vous donne tout le plaisir, je dirais, de travailler cette matière. En aucun cas, c'est de la pâte à modeler. Hein, c'est à chaque fois un produit, je dirais, une matière que vous devez observer, écouter, et avec ce qu'il faut d'attention et de distance. C'est pour ça que j'emploie le terme animal sauvage. C'est-à-dire que si vous la brusquez, cette pâte, elle va se fâcher, elle va se fermer, et puis vous allez rien en tirer. Ça va être plat, ça va être moche, ça aura pas de goût. Par contre, si vous arrivez à l'amener là où vous voulez l'amener, c'est-à-dire en termes de fermentation, de cuisson, façonnage, tous ces détails-là, ben, vous aurez quelque chose de sublime. Mais vous devez garder une certaine humilité par rapport au produit, en ayant toujours conscience que c'est pas vous qui aurez le dernier mot là-dessus. C'est le vivant qui vous dit ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire.
Christophe Watzer, au départ, en 2002, vous avez démarré tout seul. Et puis, peu à peu, des jeunes sont venus travailler avec vous. Aujourd'hui, ils sont 9. Nous aussi, nous avons nos jeunes qui se reproduisent chez nous, tout seuls, sans fermentation.
C'est la vie.
Voilà, c'est Vincent Lemonnier qui, avant de nous quitter pour quelques mois, est allé interroger l'un de vos, j'allais dire, l'un de vos bras, comme Shiva, l'un de vos bras.
Ah oui,
c'est le tourrier.
Oui, j'ai rencontré pour vous Sébastien Andrieux, il est tourrier dans votre boulangerie. C'est-à-dire que c'est lui qui fabrique la pâte pour les viennoiseries, une pâte qu'il pétrit, qu'il laisse fermenter pendant une journée au frigo et sur laquelle il fait le tourage. En fait, il lui donne des tours, en quelque sorte, en incorporant le beurre. Et les fines couches de beurre et de pâte donnent alors un feuilleté bien dosé. Tourrier est un métier qui a quasiment disparu aujourd'hui. Sébastien l'a commencé très jeune. Aujourd'hui, il a 33 ans. Et il continue cette spécialité qu'il a à cœur d'expliquer. Nous étions donc un matin vers 6h au premier étage de la boulangerie.
Là, je suis en train de mettre mon beurre dans ma pâte. Et après, nous allons procéder au tourage du beurre avec la pâte. C'est-à-dire faire de fines couches de pâte et de beurre. Et après, au four, comme ça, cette couche de beurre va bouillonner et puis ça va donner l'aspect feuilleté du croissant ou du pain au chocolat.
Parce qu'au début, là, c'est une pâte briochée qui va se transformer en pâte feuilletée.
Au début, c'est une pâte sur une base de pâte à brioche. C'est ce qui va donner le plus d'arôme. Et après, ce qui fait vraiment la qualité du produit et puis le visuel du produit, c'est ces fines couches de beurre qui va donner ce bel aspect et ce développement.
Et vous, Sébastien, ça fait combien de temps que vous êtes tourrier ?
12 ans. J'ai dans la famille éloignée à mon père un boulanger. À l'âge de 14 ans, je suis arrivé là-bas et j'ai regardé, j'ai fabriqué. Et depuis ce moment-là, j'ai voulu en faire mon métier. Depuis l'âge de 14 ans. En fait, c'est un métier qu'on n'apprend plus. C'est dommage d'ailleurs. C'est comme le métier de chocolatier. On a les bases, mais on ne sait pas réellement être un vrai chocolatier, parce qu'un vrai chocolatier, il démarre de la fève de cacao, il fait son mélange, il fait sa matière première pour faire son chocolat. Alors je ne sais pas pourquoi on a perdu ce métier-là, mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que les industriels, eux, ils en ont bien profité. Ils ont créé leur réseau. Comme un croissant surgelé, ça coûte moins cher à la fabrication. Surtout aussi un gain de temps pour les boulangers. Et du coup, ben, ils le font plus eux-mêmes.
Et du coup, un croissant, depuis sa première pâte jusqu'à son arrivée dans la boutique juste en dessous, il met combien de temps?
Sans compter la pâte qui est en fermentation, il met 5 heures. Mais sinon, c'est une journée plus 5 heures.
Avec la pâte en fermentation.
Voilà, avec la pâte en fermentation. L'important, c'est de manger un bon produit. Il faut mieux manger moins souvent, mais manger un bon produit.
Ça va vite, hein?
Ouais.
Et donc là, ce matin, vous cassez les œufs?
Oui. Tous les matins.
Il y en a combien, là, vous savez?
Moi, je casse à peu près 360 de légère.
Et vous vous appelez comment?
Ako.
Et ça, c'est mon laminoir. Alors ça, c'est la chose indispensable dans mon travail. Deux rouleaux qui tournent et ça étale la pâte.
Il y a d'autres outils du tourier?
Pour le croissant, on utilise justement un rouleau. Il y a la forme des croissants tout autour. J'ai juste à passer sur la pâte et du coup, ça découpe tous les croissants. Après, je les roule à la main parce qu'on reste au traditionnel. Moi, j'essaye de lui faire comme des petites oreilles de cochon bien ouvertes et ça fait un beau petit développement au lieu d'avoir juste des petites pointes.
Et vous, qu'est-ce qui vous plaît au fond dans ce métier?
La pâte, elle est tellement vivante, elle n'est jamais pareille. Des moments, elle a plus de force, des moments, elle a moins de force. Il faut qu'on comprenne, savoir gérer ses températures, ses textures. Si le beurre est trop dur, le beurre va se casser à l'intérieur et ça va faire des marbrures. Et si le beurre est trop mou, le beurre va se mélanger avec la pâte. Et du coup, il n'aura plus ce feuilletage. C'est un savoir-faire, ça s'explique pas, mais ça s'apprend. On fait les croissants, on fait les pains au chocolat, on fait les escargots, les sacristains, les tartes aux pommes ou à la figue suivant la saison. Et on fait aussi les chaussons aux pommes. Moi, j'aime bien le sacristain.
Ah oui ?
C'est vrai, oui, moi, j'aime bien le sacristain. Je reste simple, moi.
Là, vous avez le coup de main.
Il reste toujours une part de secret, mais j'ai tellement l'habitude de le faire.
Tout est dans les doigts.
Tout est dans les doigts. C'est ça qui récompense un bon tourier.
Vous allez faire quoi maintenant?
Moi, je vais façonner de la brioche maintenant. Je vais façonner de la brioche, une magnifique brioche.
Merci beaucoup, Vinciane Lemonnier, d'être allé au péril de votre vie à l'aube dans la farine. Et revenez-vous nous vite après.
Avec plaisir.
On fêtera ça avec du pain et des idées. Christophe Vasseur, on vient d'entendre donc votre tourier, mais on a entendu aussi une petite Ako qui cassait 360 œufs.
Ben oui, parce que on en passe de la viennoiserie et comme on n'utilise pas de coule d'œuf, je ne sais pas si vous savez
oui.
ce que c'est, ce sont des œufs soit blancs plus jaunes, soit que le blanc, soit que le jaune, qui sont conditionnés en tétrapack, en truc cartonné, et on vous vend ça en disant regardez, c'est beaucoup plus pratique, c'est plus hygiénique, sauf que c'est pas du tout la même qualité d'œuf. Là, ce sont des œufs biologiques qu'on utilise, c'est des œufs de ferme, ça a éminemment plus de goût. Vous voyez tout de suite à la consistance, la coquille est plus dure, la coloration du jaune est, porte plus sur l'orange que sur le jaune, et vous faites un croissant ou une crème pâtissière avec ça, ben ça change tout. Voilà. Mais juste une précision par rapport au métier de Sébastien, il en a un peu parlé. Il s'est formé avec quelqu'un qui lui a transmis un savoir. Le drame, si vous voulez, c'est que ce métier n'est plus enseigné depuis 35 ou 40 ans.
On fait rêver le métier de tourier.
Oui. On fait rêver. C'est très simple. Regardez, demandez à un touriste étranger à quoi il pense quand on lui parle de la France. Il va vous dire la Tour Eiffel. Il va vous dire. À un moment, il va vous parler du croissant. Oui. Le croissant, on ne l'enseigne plus. On ne sait plus le fabriquer en France. 85% des croissants que vous achetez chez des artisans aujourd'hui sont industriels. Pas parce que l'artisan en a fait le choix délibéré, mais parce qu'il a plus d'autres solutions. On n'enseigne plus, on forme plus. Donc, de temps en temps, vous tombez sur des types qui ont eu la chance de côtoyer des mastodontes et des dinosaures qui avaient ce savoir, le feu sacré, qui l'ont transmis. Ou alors, vous formez des gens. Mais comme l'a dit Sébastien, il faut plus de place, du matériel, plus de temps. Alors, économiquement, c'est un faux débat. Moins cher, pas cher. Vous vendez un produit qualitativement irréprochable, ce sera toujours moins cher que acheter une grosse daube industrielle. Néanmoins, ce marché de l'industrie a explosé. Pourquoi ? Parce que l'éducation nationale ne fait pas son travail là-dessus. On parle beaucoup de formation. Je suis désolé, dans ces métiers, on devrait le faire. Et c'est pas normal. Moi, j'ai eu la chance d'en discuter avec un politique il y a quelques années, à l'époque ministre de l'artisanat. J'ai posé la question, j'ai dit, mais attendez, qu'est-ce que vous faites là-dessus? Et eux, ils peuvent pas, ils sont élus pour 2 ans, 3 ans maximum, quand il n'y a pas de remaniement, enfin 5 ans, et ils n'ont pas le temps de mettre en place apparemment des solutions pour ça, et c'est dramatique, parce qu'effectivement, ce savoir-faire disparaît.
Vous aviez eu envie à un moment, justement, d'ouvrir une école. Est-ce que ce projet...
C'est pas possible. C'est très simple, il faut lever des moyens, et aujourd'hui, crise économique aidant, il n'y a plus de sous dans les caisses. Par ailleurs, on se heurterait aussi à tout ce qui va être lobby du syndicat de la boulangerie, qui comprend pas ce qu'on fait. Déjà, moi, ça fait 14 ans que j'officie, ça fait 14 ans qu'ils comprennent pas du tout ce que je fais. Je suis un ovni pour la profession. Entendez bien, je suis fermé le samedi, le dimanche. Je fais pas de pâtisserie, je
comme
vends pas de boissons.
Comme beaucoup de restaurants maintenant, les jeunes chefs, ils veulent avoir une vie de famille. Non, mais c'est.
Non, attendez, il y a deux choses. Il y a un, la vie de famille. Deux, il y a les 35 heures. Ça a flingué l'artisanat, les 35 heures. Expliquez-moi comment, en enlevant 4 heures sur un poste et 4 heures sur un autre, 39 à 35, avec 8 heures, on va pouvoir embaucher quelqu'un dans nos professions. C'est juste un non-sens. Ok, quand vous êtes chez Renault, mais pas quand vous êtes une petite entreprise où vous avez 7 ou 10 salariés. Bref, je voudrais en revenir aussi sur autre chose. Vous parliez tout à l'heure de Hako qui travaille pour moi. Aujourd'hui, vous voyez, il y a un tel déficit de formation en France que je ne peux plus travailler autrement qu'avec les Japonais. J'ai une majorité de Japonais dans mon staff aujourd'hui à Paris. Vous parliez de 9 salariés. J'en ai effectivement 3 à la vente, plus 5 à la production, et puis une qui se répartit un peu moitié-moitié. Mais le personnel à la fabrication, la seule personne à la fabrication qui est de langue française, c'est Sébastien que vous avez entendu. Tous les autres sont japonais. Pourquoi ? Parce qu'en France, on n'intéresse plus personne avec les métiers manuels. Parlez-en avec un menuisier, avec un plombier, avec un cuisinier. Alors avec un cuisinier, ça s'est un peu amélioré avec toutes les émissions autour de la cuisine. Mais néanmoins, on fait rêver plus personne avec ces professions. Alors que ce sont des professions sublimes. Et là-dessus, une fois de plus, l'éducation nationale ne fait pas son travail de former, de communiquer dans les écoles, de faire venir des gens. Moi, jamais on m'a contacté pour dire, mais allez, venez un peu parler de votre conversion, reconversion, et de votre passion pour ce métier. Faites rêver un peu des mômes. Envoyez-les vers des centres de formation aux apprentis. Non, rien. Et c'est pour ça, je vous dis, le projet d'école, je pense qu'il verra jamais le jour, parce que pas de volonté de la part des institutions, pas de moyens, et ça dérange. Je veux dire, je fais ce que les autres ne font pas, et ce que pendant très longtemps on a dit, faut pas faire. Faut pas fermer le week-end, faut pas ne pas faire de pâtisserie. J'ai une gamme ultra courte, vous voyez, j'ai 3 produits qui se courent après, j'ai pas une gamme pléthorique. Donc c'est un non-sens, n'empêche que c'est un non-sens qui marche.
Oui, oui, il suffit de passer sur le trottoir de la rue Iftoudig pour ne plus pouvoir se décoller de votre belle boutique, Christophe Vasseur. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. Ce livre qui est sous mes yeux, qui s'appelle « Le pain de la terre à la table », Christophe Vasseur, vous l'avez conçu, vous l'avez réalisé, édité à compte d'auteur, toujours dans le droit fil
de ce que je suis et de ce
voilà,
que je fais.
Il faut faire sa trace tout seul. Les textes sont de Camille Cérès, les photographies magnifiques de Benoît Linéro. Et je vous remercie d'exister.
Merci beaucoup.
À bientôt, au revoir. L'humeur vagabonde, c'est fini pour aujourd'hui, mais nous nous retrouverons, si vous le voulez bien, dimanche prochain. Je recevrai Stéphane Brajweg, qui remet en scène au Théâtre des Champs-Élysées à Paris un Don Giovanni formidable qu'il avait déjà monté en 2013. Mais bien sûr, France Inter, ça continue après les infos de 15h. Vous avez rendez-vous avec Fabienne Chauvière et ses aventuriers. Très bon dimanche à l'écoute de France Inter, bien entendu.